RENT, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier. Les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, Gercop et le réseau La Forêt sur Radio Imo.
Salut les amis, merci d'être avec nous. Voilà, vous entendez des applaudissements, c'est certainement le cocktail qui était juste à côté, ici au RENT, deuxième jour, 21 octobre 2021. Plus de 10 000 inscrits pour cette manifestation, il est pratiquement 13h, on est ravis d'être avec vous. Et on va terminer cette journée sur une actualité. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, on va parler de la conférence qui a eu lieu ce matin, président adjoint de la... C'est un président ou délégué ? Oui, pardon, président délégué. Pourquoi
adjoint, c'est Loïc, mon ami Loïc Quentin.
Voilà, président délégué de la FNIM, Julien Savelli. Comment ça va, Julien ?
Ça va très bien, Sylvain, merci beaucoup.
Oui, alors, Julien, revue d'actualité, un plateau finalement avec la ministre, Pascal Boulanger, tous les grands de l'immobilier autour finalement de ce concept du RENT qui a cartonné comme c'est pas permis. Ça t'étonne, toi, quand tu vois 11 000 personnes, pratiquement 11 000 personnes venir sur un événement qui n'avait pas eu lieu depuis 2 ans.
Alors ça, d'abord, ça me fait plaisir. Parce que réellement, c'est une joie de retrouver beaucoup de confrères et beaucoup de partenaires. Et c'est un très beau salon. En toute honnêteté, c'est un très beau salon, très agréable, très réussi, beaucoup d'innovation. Et c'est tant mieux, puisque c'est le thème du RENT. Donc beaucoup d'innovation, beaucoup d'audace aussi dans les entreprises qui sont présentes ici. C'est vraiment, vraiment, à mon avis, un millésime remarquable.
Alors, millésime remarquable, justement, avec des acteurs où vous avez évoqué un certain nombre de sujets. On ne va pas revenir dessus, mais il y a quand même quelques sujets qui ont fait polémique ces derniers jours. Effectivement, je m'en suis entretenu d'ailleurs tout à l'heure avec la ministre, justement, où elle a eu, d'ailleurs, elle est revenue sur ses propos, quand elle a évoqué la maison individuelle. Alors, justement, si on fait le bilan de l'actualité et de l'activité avec cette conférence, qu'est-ce qui ressort des grands points que tu as évoqué tout à l'heure en plénière, ce qui était blindé de monde.
Ce qui ressort, c'est que les Français veulent un habitat différent. Ils veulent effectivement se retrouver dans un lieu plus grand, plus ouvert vers l'extérieur, un lieu plus proche des services publics, des commerces. Et en même temps, ils veulent pouvoir se déplacer de façon plus écologique et ne pas utiliser la voiture. Aujourd'hui, on utilise la voiture, on quitte son logement, on va au supermarché, du supermarché, on va amener les enfants à l'école et on prend la voiture à chaque fois. Donc voilà ce qui ressort de cette étude qui était vraiment très intéressante et le compte-rendu qui a été fait la semaine dernière par la ministre du Logement était vraiment, vraiment brillant. Nous, à quoi on sert là-dedans ? C'est ça, je pense, qui est intéressant. C'est à quoi servent les professionnels de l'existant, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas promoteurs. Là où on a un rôle à jouer, c'est sur... réinventer la ville qui existe déjà, c'est-à-dire là où on gère des logements, là où on gère des copropriétés, on a un rôle à jouer dans la densification, on a un rôle à jouer, et j'ai proposé la surélévation des logements, on a un rôle à jouer dans la rénovation énergétique des copropriétés et des logements pour le parc le locatif privé. Vraiment, c'est encourageant. Ça veut dire que nous, professionnels, syndics, administrateurs de biens, on est au centre du jeu.
Alors, le patron de la FPI a aussi évoqué effectivement le fait que la production de logements neufs est nettement aussi insuffisante. Tu conviendras aussi que dans le climat politique du moment, une faiblesse de production de logements neufs influence très nettement le marché de l'ancien. Et donc, du coup, augmente. C'est un peu la double peine pour les primo-accédants, la double peine pour ceux qui veulent se loger, même en louant, par exemple, avec des prix qui sont franchement plus tenables. Quand tu vois aujourd'hui ces augmentations de prix... Alors, c'est vrai que Paris plafonne un peu. Bon, Paris plafonne à 11 000 euros du mètre, hein, donc pas exagéré, mais quand même qu'on a des villes intermédiaires qui commencent à gagner effectivement à la fois des habitants avec des performances parfois à 2 chiffres d'augmentation, où on voit par exemple des Parisiens ou des grands métropolitains arriver dans ces villes moyennes et finalement faire augmenter les prix, ce qui fait que les classes moyennes qui vivaient déjà sur place, du coup, ça crée un peu des distorsions. Est-ce que aujourd'hui dans le choc de l'offre tant attendue, tu as l'impression que les dispositifs qui ont été mis en place récemment, il faut le dire, la commission Rebsamen qui a remis un rapport, les décisions qui vont être prises, est-ce que ça va dans le bon sens ? Quels sont les indicateurs ? Ou est-ce qu'encore une fois, tu vas dire, toi, en tant qu'homme politique dans le métier, voilà, on n'a pas encore suffisamment pris à bras le corps cette politique du logement tant attendue ?
Sur la partie il faut construire du logement, bon, ben, tout le monde est d'accord.
Oui.
On est tous d'accord.
Oui. Mais combien il faudrait... Julien, combien il faudrait construire de logements si on devait aujourd'hui équilibrer la demande et l'offre entre l'ancien et le neuf ?
Pour rattraper le retard, les spécialistes disent qu'il faudrait plus de 500 000 logements par an et pendant 10 ans.
Ah oui, quand même. Ah oui, il faudrait produire 5 millions de logements pendant...
Pour rattraper le retard, oui.
En 10 ans. On est vraiment... Alors,
donc
on
c'est pour
en
ça,
est très très loin.
C'est pour ça que l'existant a son rôle à jouer et qu'on a intérêt de s'appuyer sur les professionnels pour pouvoir rénover, comme je dis tout à l'heure, les cœurs de ville, rénover les centres-villes pour habiter différemment.
Oui, mais le stock de l'ancien n'est pas suffisant pour absorber la demande. Il faut construire du neuf.
Je ne dis pas le contraire. Il faut construire du neuf. Mais penser que uniquement en construisant du neuf, on réglera le problème du prix de l'immobilier... C'est possible si on fait 500 000 logements par an.
Oui, oui.
Effectivement,
en fait, c'est le stock. S'il y a vraiment une offre...
Il y aura forcément une baisse.
D'accord.
Mais on sait qu'on n'arrive jamais à en faire 300 000, donc on n'en fera pas 500 000 aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de logements qu'on pourrait utiliser. Alors on parlait tout à l'heure, lors du débat avec la ministre, des villes moyennes. Mm-hmm. Les villes moyennes aujourd'hui, autour des métropoles, autour des grandes métropoles, ont leur rôle à jouer. Les prix de l'immobilier sont très inférieurs. Il y a des possibilités d'avoir des logements avec des extérieurs, avec des surfaces plus grandes, ce qui correspond à la demande des Français d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aux politiques publiques, peut-être, de mettre les transports nécessaires pour relier ces villes moyennes et ces petites villes aux métropoles et faire en sorte qu'à la fois, on donne ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire la petite maison individuelle à la campagne, pour pas faire, sans faire de polémique.
On va le dire, oui. Il y a, la ministre a prononcé une phrase qui est... Moi, je considère qu'on a sorti un peu du contexte.
C'est le cas, oui.
Sur lequel elle disait que la maison individuelle était un non-sens avec un mot de jardin. C'est pas ce qu'elle a voulu dire. D'ailleurs, elle a rectifié le tir, etc. Mais tu connais les journalistes, hein, on sort une phrase de son contexte parce que ça s'est enflammé sur la toile comme c'est pas permis. Mais justement, toi, tu as une particularité. Tu es un entrepreneur et tu es inscrit dans le territoire. Hein, territoire, tu vis à Toulon. Belle entreprise régionale, très ancrée dans le territoire. Je prends le cas de Toulon. Est-ce que Toulon a tiré les marrons du feu ?
Alors Toulon, c'est une très très belle opportunité immobilière. C'est une ville de 175 000 habitants dans une agglomération de 450 000 habitants qui est au bord de mer, qui est la capitale du département du Var, le premier département touristique de France, le premier département forestier de France. Et cette ville-là, elle a des prix immobiliers assez bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 2 200 euros le mètre carré.
Au plus haut.
Le plus haut, c'est quoi ? En moyenne. Alors, d'accord. Au plus haut, on a des prix qui sont aux alentours de 8 500 euros le mètre. Mais vraiment les prix très très hauts pour les pieds dans l'eau, les bords de mer, etc. Ou les très belles vues mer. Mais l'habitat toulonnais est très intéressant. Il y a une très bonne rentabilité. Une très très bonne rentabilité pour l'immobilier locatif.
Donc pour les investisseurs ?
Pour les investisseurs,
c'est un bon plan.
Il y a un très beau marché locatif. C'est-à-dire que la demande est là. La demande est forte. Donc aujourd'hui, de belles rentabilités, de beaux produits dans une ville qui est...
Mais quand tu dis rentabilité, ton rendement moyen en location, on peut viser quoi ? 6-7% ?
Entre 7 et 8%, oui.
Ah, quand même ?
À Toulon, en centre-ville, oui.
Bah pour les investisseurs, c'est...
C'est une ville parfaite.
Ah ouais.
Sincèrement, c'est une ville parfaite. Ouais. En plus, il y fait bon vivre. La rénovation depuis 20 ans est excellente. De nouveaux projets sortent.
C'est facile à louer ?
Il y a une très forte demande locative. D'accord. Une très forte demande locative.
D'accord. Mais c'est lié à quoi ? C'est lié à la démographie ?
C'est lié au fait que le département du Var et l'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée est la zone la plus attractive, celle qui se développe le plus en termes d'entreprise, d'emploi, dans la région PACA. Plus que les deux métropoles de Nice et de Marseille.
C'est drôle, on n'a pas cette image.
Et non. On a gardé une image d'il y a longtemps, de Toulon.
Oui, l'arsenal.
Une image, oui, peut-être un peu industrielle de la défense.
Oui. Ensuite, l'arsenal, ville militaire.
Ensuite, on a eu
pas très joli,
une grande, une mairie Front National. Et effectivement, on a eu cette époque aussi qui a fait que Toulon a été un peu pointé du doigt. Mais depuis 20 ans, c'est une ville qui se développe très bien, où il fait très bon vivre. Et où les affaires immobilières, pour ceux qui investissent, sont très bonnes.
Une ville d'ailleurs très bien desservie. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet d'illustrer le propos justement entre les villes moyennes, les grandes et les grandes métropoles qui ont tiré effectivement parfois un peu les prix, qui ont aspiré un petit peu les prix. Il y a trois défis pour terminer cette discussion. Trois défis. Le premier, c'est la politique du logement, inscrit dans le débat public avec les élections présidentielles de mai 2022. Est-ce que toi qui rencontres les candidats, qui va rencontrer d'ailleurs tous les candidats, bien évidemment, est-ce que tu as le sentiment, est-ce que les indicateurs te disent « je pense que cette élection sera l'opportunité de mettre en place un vrai plan Marshall du logement, une vraie politique du logement ?»
Ce qui a toujours bien fonctionné dans le logement et dans les réformes surtout fiscale liée au logement, c'est la durée, c'est la stabilité. Le problème, c'est qu'à chaque nouveau gouvernement, on a des modifications qui font que les choses ne sont pas pérennes. Les choses ne se dit pas dans le temps. Je prends un exemple. On avait eu à l'époque la possibilité de déduire les intérêts du prêt de sa résidence principale.
Et c'était génial. Ça.
C'était génial.
Ah ouais.
Ça fonctionnait très bien. Ça avait boosté le marché. Ça s'est arrêté au bout de 2 ans. À chaque fois qu'on a une incitation, et là, c'est intéressant parce que les gouvernements ont compris qu'il faut inciter et arrêter de sanctionner. Donc tout le monde essaie d'inciter, mais il n'y a pas de durée. Aujourd'hui, détenir un bien, quand ce n'est pas sa résidence principale, quand c'est du locatif, détenir un bien, on sait que jusqu'à 30 ans, on va payer quelque chose. 30 ans de détention. 22 ans, on commence à payer un petit peu moins, mais jusqu'à 30 ans, on va payer. Je pense qu'il faut aussi fluidifier les choses et j'espère qu'on va pouvoir expliquer dans cette élection le rôle du bailleur privé, le rôle primordial. Et là, le DPE, le cafouillage du DPE nous a permis de remettre ça en exergue, donc c'est très intéressant. Je pense que le bailleur privé, va falloir effectivement qu'il puisse faire entendre sa voix, le copropriétaire et bien sûr l'investisseur en général dans l'immobilier. Donc c'est le bon moment. La FNAM fera ses propositions, certainement avec d'autres syndicats professionnels.
Est-ce que les candidats, les politiques que tu as rencontrés t'ont envoyé des signaux positifs ?
Ah ben, les candidats envoient toujours des signaux positifs.
Mais oui.
Quand avant, ils sont candidats, ils envoient toujours des signaux positifs.
Mais oui, avant avant les élections.
Moi, j'ai une crainte. Ah, c'est à titre personnel. J'ai une crainte. Quand j'entends souvent le président de la République, et je l'ai dit tout à l'heure, expliquer que l'immobilier, c'est une rente. Mm-hmm. L'immobilier, c'est pas une rente. L'immobilier, c'est un actif dynamique qui pèse lourd dans l'économie française et qui produit une richesse, celle de se loger. Et j'ai une crainte, c'est que... après tout ce qui vient de se passer, cette pandémie, avec les 240 milliards de dépenses publiques supplémentaires, qu'on vienne encore chercher les euros manquants sur la grosse bête qu'est l'immobilier. Et je crains vraiment qu'on touche à la résidence principale, à la fiscalité de la résidence principale. La résidence principale, aujourd'hui, est exonérée et elle doit rester exonérée.
Tu veux dire qu'il y aurait une tentation de fiscaliser la plus-value de la résidence principale ? Ça serait, entre nous, ça serait une catastrophe.
Alors,
ça serait une catastrophe.
Brutalement, ça serait une catastrophe. Parce que le parcours résidentiel serait vraiment touché et ce serait encore les ménages les plus modestes et ça serait encore les petits propriétaires les classes moyennes qui trinqueraient.
Ceux qui vendent leurs biens pour aller à la retraite.
Mais ça dépend comment on l'articule dans l'ensemble d'une fiscalité immobilière.
Je comprends.
Voilà. Il ne faut pas avoir de tabou, mais en tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est dire, voilà, les ventes, cette année, il y a eu 1 200 000 ventes. Peut-être qu'il y a eu 850 000 transactions sur la résidence principale. Si on prenait 5% à chaque fois, ça aurait fait tant de milliards. Voilà, j'espère que ce n'est pas comme ça qu'on va réagir en disant il faut boucher les trous, il faut remplir les caisses. Allons voir un petit peu du côté de l'immobilier parce que ça tourne, ça marche. Bon. Mais ça tourne et ça marche aujourd'hui parce que justement, les Français se sentent libres avec leur résidence principale. Et c'est encore un des seuls points où la liberté fiscale est présente pour les Français.
Ça s'appelle une punchline pour conclure. Merci Julien Savelli, président délégué de la FNAIM. Merci d'être passé par le plateau de Radio Immo. Ici au Rennes, 21 octobre, nous sommes toujours en direct. Vous partagez, vous likez, vous faites comme d'habitude. Et on poursuit nos programmes. À bientôt.
Rent, Real Estate and New Technologies, le salon dédié aux innovations pour les professionnels de l'immobilier, les 20 et 21 octobre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec, bien ici, Opinion System, TK Elevator, Airpro.com, Gercop et le réseau La Forêt sur Radio Immo.